Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers pour un nouveau pédalo. Au programme ce soir, on va parler cinéma puisque j'ai pu m'entretenir avec Valentin Berthomeu, réalisateur et monteur qui propose ces derniers jours une campagne de financement participatif afin de soutenir la post-production d'un documentaire qu'il a réalisé en 2016. C'était lors des manifestations étudiantes contre la loi travail, on en parlera dans quelques instants. Enfin, en fin d'émission, vous pourrez retrouver la chronique grise qui nous parle aujourd'hui de ce jour qui approche à grands pas, à savoir la fête de la musique. Mais tout de suite donc, je vous laisse en compagnie de Valentin Berthomeu. Très bonne émission à toutes et à tous. Je suis au téléphone avec Valentin Berthomeu, réalisateur et monteur, notamment au sein du cinéma documentaire. Après avoir travaillé comme assistant monteur pour des documentaires pour le cinéma et avoir réalisé les formats courts, il s'est décidé au printemps 2016 à filmer le mouvement de contestation étudiant contre la loi travail, loi défendue par la ministre du Travail de l'époque, Myriam El Khomri, et qui a reçu une forte opposition car étant accusée de faire reculer les droits des salariés. C'est également ce mouvement qui est à l'origine de l'occupation de la place de la République et à la naissance de Nuit Debout. Ce documentaire, qui s'appelle Le Printemps Debout, a été réalisé sur le temps long, avec beaucoup de temps de tournage aux côtés des étudiantes et étudiants, notamment au sein de l'université Paris 8 Saint-Denis. L'équipe du film a lancé une campagne de financement participatif pour terminer la post-production de ce documentaire, et il vous reste quelques jours pour y participer. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Alors j'ai évoqué très brièvement ton parcours, est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail sur ton travail, ce que tu faisais avant ce printemps 2016 ?
Eh bien, moi je suis principalement monteur, j'ai fait un BTS audiovisuel à Montaigu, à côté de Nantes, et puis je suis devenu monteur et assistant monteur, disons un petit peu pour professionnellement. J'ai travaillé, je travaille toujours d'ailleurs en publicité, un petit peu en fiction, notamment en documentaire, ce que j'ai pu faire un petit peu comme assistant monteur, donc pas mal de choses, et j'ai aussi voulu depuis assez longtemps aller vers la réalisation. Donc je m'y suis essayé, des petits courts-métrages, choses comme ça, et donc voilà, c'est un peu ce qui m'a amené à ce moment-là où je me suis un peu lancé dans ce film-là, qui est donc premier long-métrage, même si c'était un long-métrage un peu bricolé, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvé là.
T'as rapidement été attiré par le documentaire, qui n'est pas forcément le genre de cinéma le plus considéré au niveau du grand public. Est-ce que tu sais ce qui t'y a poussé ?
Moi, au fond, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup la fiction et le documentaire, parce que je trouve que c'est deux manières différentes, mais pas tant que ça, au fond, de faire du cinéma. Donc, le documentaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en prise un peu directe avec le réel. C'est un petit peu aussi une manière de faire du cinéma, avec des plus petits moyens. Donc, on peut facilement, prendre une caméra et aller filmer. Sur le papier, même si après ça demande beaucoup de travail, c'est d'autres questions qui se posent que sur la fiction. Mais c'est quelque chose d'assez passionnant d'avoir un peu le cinéma à sa porte quelque part.
Et de ce que j'ai compris, donc ça faisait aussi un moment avant 2016 que tu envisageais de filmer un mouvement social, plus spécifiquement étudiant. Comment tu l'expliques ?
Disons que moi je connais plutôt bien le milieu militant sans y avoir complètement jamais eu les deux pieds dedans non plus, notamment aussi parce que je fais mes études dans une petite ville, dans un petit lycée, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient, c'est quelque chose qui du coup m'intéressait parce qu'il se passe quelque chose de très fort. Et à ce moment-là, j'ai l'impression quand il y a des mouvements étudiants et des choses comme ça qui se passent, j'ai l'impression que d'avoir entendu régulièrement quand on entend des gens, des militants, des gens qui travaillent avec les syndicats ou qui pas mal de choses différentes, j'ai l'impression d'entendre souvent quand on leur parle de leur parcours, ah oui, moi je suis vraiment tombé là-dedans en 2003 pendant le CPE, en 95, on peut remonter jusqu'à mai 68, encore avant comme ça, à plein de générations, j'ai l'impression ont vécu un petit peu la même chose. et qui a été quelque chose de très fédérateur, de très fondateur plutôt pour eux. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose là, à attraper peut-être pour faire du cinéma d'une certaine manière. Et donc c'est qu'en 2016 j'ai vu que il avait l'air de se passer quelque chose de vraiment particulier, un mouvement qui prenait, qui commençait à prendre assez fort. Je me suis dit que j'allais aller jeter un œil à ce qui se passait. Là où les choses se passaient vraiment cette fois-là, c'était à Paris 8, en tout cas en Ile-de-France. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à tenter un truc, voilà, à prendre une caméra et tenter un truc, et aller là-bas.
Comment ça s'est fait alors? C'est dès les premiers jours, tu t'es dit que c'était le mouvement qui avait l'air propice à des développements qui pourraient être intéressants?
Oui, disons qu'en 2016, on a fini par voir assez rapidement que ce serait quelque chose de potentiellement assez gros, quoi, un moment d'histoire sociale comme on n'avait pas vu depuis assez longtemps, même si évidemment c'est plus facile de s'en rendre compte après coup. Et vraiment cette fois-là, on voyait pas mal d'articles, pas mal de choses où il se passait des choses à Paris 8. Et ça me paraissait intéressant d'aller là-bas, alors que c'est une fac où je suis pas allé, comme je disais, moi je suis pas allé à la fac. Donc c'était aussi un terrain d'exploration intéressant pour moi d'aller sur ce lieu-là que je connaissais moins. Et du coup, c'est un peu comme ça que je suis allé donc à Paris 8. Et au fur et à mesure, on sentait qu'on allait dans les manifestations, tout ça, qu'il se passait quelque chose d'assez fort, même s'il n'y avait pas encore une nuit debout et tout ça, mais il se passait un truc en 2016.
Comment se sont passés les premiers jours? T'es arrivé à Paris 8, t'as décidé de te focaliser sur cette université. On sait que certains milieux militants peuvent parfois être récitants à ce qu'on enregistre ou à ce qu'on filme. T'as pas rencontré de problème quand tu as expliqué ta démarche?
Alors non, pas trop, surtout que justement je connaissais un petit peu comment pouvaient fonctionner les milieux militants, donc j'y suis allé quand même un petit peu doucement. Je suis pas allé mettre ma caméra sous le nez de tout le monde comme ça sans se poser de questions. Ce qui m'a aidé au début, c'est que cette année-là, à cet endroit-là, dans les premières AG que je suis allé filmer, ils avaient voté d'accepter quand même les journalistes, avec la contrainte de qu'une partie de la salle était réservé aux gens qui voulaient pas être filmés, avec des choses comme ça. Donc du coup j'ai pu commencer un petit peu à filmer comme ça, puis de fil en aiguille j'en ai rencontré certains. Je pense aussi qu'ils ont compris que ceux qui voulaient pas être filmés, je respectais ça au maximum. Donc voilà, ça s'est fait un petit peu petit à petit comme ça, ça s'est pas trop mal passé. Puis ils auraient très bien pu ne pas vouloir du tout qu'on les filme, et ça aurait été tout à fait compréhensible. Et puis aussi, j'ai pas filmé certaines choses, comité de mobilisation, choses comme ça. Ça, c'est pas des choses qui étaient vraiment possibles de filmer. C'est une chose que j'ai tout de suite respectée, je pense.
Comment tu as procédé? Parce que sur des sujets plus classiques, tu peux prévoir en amont ce que tu vas filmer, les sujets que tu vas interroger. Là, tout s'est décidé sur le moment.
Ben oui, parce que c'est à la fois ce qui est difficile sur ce genre de projet, mais à la fois ce qui est passionnant d'ailleurs, de se retrouver à filmer des événements pendant qu'ils se passent. Après, c'est un peu comme ça que j'aime le cinéma et le cinéma documentaire, le cinéma comme quelque chose qui, comme ce qui va se passer devant la caméra, et pas seulement filmer quelqu'un qui raconte quelque chose. Donc pour ça c'était assez passionnant, et puis ça demandait de venir assez souvent quand on pouvait, des fois venir pour filmer des choses alors que finalement il ne se passait rien, des fois avoir la grosse frustration de pas être allé filmer un jour où il s'est passé des choses intéressantes. Faut arriver à naviguer un petit peu entre tout ça, on navigue un petit peu à vue, faut arriver à se fixer un cap sur ce qu'on veut filmer, sur ce qu'on veut raconter, sur ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse pas. Et puis à partir de là, oui, c'est un petit peu, ça s'écrit un petit peu au fur et à mesure du tournage, un film comme ça, et aussi du montage. Parce que du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écriture en amont. Mais c'est assez compliqué de travailler comme ça, mais c'est absolument passionnant.
Par la suite, un peu, quand tu commences à avoir des images, quand tu commences à fixer un cap, comment ça s'est passé? Au bout d'un certain temps, en dérochant, tu savais déjà, tu commençais à monter des scènes, ou tu as attendu la fin du mouvement, la fin de toi, tes heures de tournage, avant de vraiment choisir comment ça allait se construire?
Alors déjà, bon, le fait d'être monteur, je pense que ça m'a aidé à, sur le tournage, comprendre un peu ce que je faisais. Mais tant mieux, parce que j'avais vraiment pas le temps de dérocher pendant. Il se passait des tas de choses. En plus, je suis intermittent, donc je faisais pour faire mes heures, des fois je travaillais aussi. je terminais d'autres projets, donc j'avais pas le temps de dérocher sur le moment. Donc j'ai dû avancer un petit peu en essayant de faire confiance à ce qui se passerait, et voilà. Et c'est ensuite que j'ai laissé du temps, j'ai même pas dérushé tout de suite, j'ai laissé passer du temps, parce que surtout en montant tout seul, j'ai monté moi-même le film, ce qui est pas toujours très conseillé, mais c'était un peu plus pratique aussi pour un film comme ça qui a pas eu de financement. Du coup, j'avais besoin d'avoir un peu de recul sur les rushs. Et mais dès le début, je savais que je voulais pas travailler en, je voulais travailler sur le temps long et pas travailler dans les médias. Le but, c'est pas de faire des vidéos à chaud. Il y en a qui font ça très bien et beaucoup mieux que moi. Moi, c'était pas ça que je voulais faire. Donc je me suis laissé du temps aussi avant de dérocher, prendre le temps de dérocher. C'est pour ça aussi que ça a mis quand même pas mal de temps, mais c'était assez nécessaire, je pense, de prendre justement du recul comme ça sur les images et de les redécouvrir après. De les redécouvrir un petit peu avec un œil un peu plus neuf.
On se rappelle donc que ce mouvement, c'est aussi ce qui a été marqué par l'apparition de Nuit Debout, qui avait beaucoup résonné. Toi, est-ce que tu y as participé aussi? Est-ce que tu as mis ta caméra? Dans quelle mesure on retrouve ce mouvement dans le film?
Alors oui, moi j'y suis allé un peu déjà dans les premiers jours, parce que les étudiants que je filmais, j'avais commencé à filmer un peu avant Nuit Debout. Il y en a dans ces militants-là qui y sont allés, et puis ça m'a amené à... Forcément, on ne pouvait pas faire un film sur ce printemps-là sans aller à Nuit Debout. Donc j'y suis beaucoup allé, j'ai beaucoup filmé, c'est dans le film, mais beaucoup moins que ce que j'imaginais au moment du tournage. Parce que c'est aussi au montage que j'ai fait le choix de rester sur ce point de vue de Paris 8, même si de temps en temps on part sur Nuit Debout, puis tout se mélange un peu, il y a des gens qui ont lâché Paris 8 pour aller Nuit Debout par exemple, on rencontre d'autres gens. Mais c'est pas un film nommément sur Nuit Debout, même si évidemment ça y a une place, parce que c'était absolument incontournable à ce moment-là, et c'était incontournable de ce qui s'est passé en 2016, pendant ce printemps-là.
Pour beaucoup de personnes qui ont été présentes, que ce soit ponctuellement ou plus régulièrement, ça a été des moments assez marquants. Est-ce que toi, de suivre ces moments-là, ça l'a été pour toi aussi?
Oui, plutôt, parce que au fond, j'avais le sentiment de pas vraiment participer, parce que je venais pour filmer, donc c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps. Même si en fait j'y étais tellement souvent que oui, au fond, j'ai vécu les événements, et c'est quelque chose qui est je pense assez marquant. On est 4 ans après, quand on parle de 2016 à plein de gens un peu de milieu militant ou même pas si militant que ça, ça revient. La Nuit Debout, c'est quelque chose qui a vraiment marqué. Et voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, il y en a qui disaient ça servait à rien, d'autres qui disaient mais en fait ça avait pas le but n'était pas que ça serve absolument à quelque chose. En tout cas, c'est maintenant, je pense qu'on peut commencer à voir le début du recul pour se dire que c'est quand même quelque chose qui s'est passé, qui a politisé des gens, qui a fait se rencontrer des gens, qui a fait avancer beaucoup de choses dans les têtes au moins, quoi. Donc pour ça, oui, c'est forcément quelque chose de marquant.
Après ça, donc, le mouvement de contestation a duré jusqu'en septembre 2016. Toi, tu as continué à filmer jusqu'aux dernières manifestations ou tu t'es arrêté à un moment avant la fin?
J'ai arrêté de filmer début juillet, parce qu'il ne se passait plus grand-chose dans les facs. Mais au fur et à mesure, j'ai de moins en moins filmé aussi, parce que à la fin, on rentrait un peu dans ce que j'ai essayé de montrer dans le film aussi, mais on rentrait un petit peu dans une, faut pas dire une routine, parce que c'était pas non plus une routine ce qui s'y passait, mais de manifestation en manifestation, d'agir en agir, il se passait un petit peu de plus en plus, un peu toujours la même chose d'une certaine manière, avec un mouvement qui finissait par un petit peu quand même s'essouffler à la fin. Donc j'ai quand même montré ça, j'espère, dans le film, et j'ai filmé, oui, à peu près jusqu'à début juillet.
Après des mois comme ça, être au cœur de la mobilisation, à suivre ce qui se passe, ça a dû être un peu bizarre aussi d'arriver à la fin de ces manifestations, à cet essoufflement, et finalement à ce que la loi soit passée aussi et que le mouvement s'arrête tout à fait.
Absolument, oui, pour moi peut-être un peu, puis aussi beaucoup pour les gens que j'ai filmés. C'est ce que m'ont dit certains après, que ça avait été assez... ils ont vécu quelque chose de très très fort. En quelques mois, ils ont eu l'impression de vivre des années, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu le fait que ça s'arrête un peu comme ça, ça a été assez difficile à gérer pour certains, même si en même temps, ils étaient au bout du rouleau, quoi. Ils étaient absolument rincés. Donc, c'est un peu obligé aussi que ça s'arrête à un moment, même si en même temps, il y a des tas de choses qui ont repris aussi. C'est des gens, des fois, qui se sont rencontrés, qui se connaissent toujours, qui militent toujours ensemble. Donc, ça s'est pas arrêté de manière si brutale que ça. Mais c'est vrai que oui, c'était c'était assez ambivalent le sentiment qu'ils ont eu, en tout cas. Et c'est vrai que je l'ai un peu ressenti aussi. Ce truc de, à la fois, oui, un peu le sentiment de, ça, bon, on a donné beaucoup d'énergie, la loi est passée quand même, 49-3, tout ça, donc côté un peu déprime, et en même temps, comme dirait l'autre, et en même temps, des beaucoup de rencontres, beaucoup de choses qui se sont passées, ils ont vécu quelque chose de très très fort, et ils en gardent un sentiment quand même assez positif, certains. Ça dépend lesquels, mais beaucoup gardent quand même un sentiment assez positif, que ça les a lancés vers quelque chose.
Et toi alors, donc tu l'as évoqué, tu as laissé un certain temps les rushs de côté avant de t'y remettre, ça correspondait à combien de temps à peu près? Et à côté de ça, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des interviews que tu avais réalisées de certaines personnes plus tardivement. À quel moment ça s'est fait?
Alors oui, j'ai commencé à me replonger un peu dans les rushs une bonne année après, parce que j'avais aussi pas mal d'autres choses à faire, et puis laisser un peu passer le temps, comme je le disais tout à l'heure. Donc j'ai commencé un petit peu à dérocher, ouais, une bonne année après, quelque chose comme ça, et j'étais en début de montage quand j'ai commencé à vraiment retrouver certaines personnes, enfin re-rencontrer certaines personnes pour les interroger, et ça c'était 2 ans après, c'est en 2018. Voilà, et c'est à peu près à partir de ce moment-là que j'ai monté de manière un peu plus un petit peu plus assidue. Voilà, et après il y a eu à peu près 1 an où j'ai monté de manière beaucoup plus, en passant beaucoup plus de temps, quoi.
Pour les personnes que tu as interrogées 2 ans après, qu'est-ce que c'était le ressenti ou les ressentis ou certains des ressentis?
Bah, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, quoi, que à la fois, bon, il y a eu ce truc de ce truc de, ça n'a pas vraiment marché, entre guillemets, mais il y a plusieurs qui m'ont dit, mais est-ce que, en fait, au fond, est-ce qu'on fait vraiment ça pour que ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire, marcher? Ils ont vécu une expérience très forte, ils se sont politisés, ils ont politisé d'autres gens. Il y en a qui gardent un bilan assez positif, quoi, ou qui veulent pas forcément tirer un bilan positif ou négatif. Et je pense qu'ils en gardent vraiment quelque chose de très fort, même si évidemment il n'y a pas de ressentis qui sont les mêmes, je pense. C'est des gens très différents qui sont mobilisés, qui sont rencontrés d'ailleurs. C'est un peu ce truc d'ébullition et de. Ouais, un truc fort qui s'est passé à ce moment-là, comme il s'en est passé avant, comme il s'en est repassé après d'ailleurs, hein, dans les facs, mais je pense que c'est un petit peu ça qui prédominait dans ce qu'ils m'ont dit.
Et de ton côté alors, et du côté du film, donc tu continues le montage, et à côté de ça, il faut aussi commencer à démarcher pour ton film, à chercher une boîte de production. Comment est-ce que ça s'est fait?
Eh bien, en fait, là, je travaille avec donc La Baleine Mécanique, qui est une boîte de production nantaise montée par Victor Forest, que je connaissais de BTS, donc qui montait sa boîte, cherchait un peu des projets. Et puis ça s'est fait un petit peu comme ça, donc voilà, c'est un petit peu lancé au même moment. Lui, c'est un peu la première fois, je crois, qu'il produit comme ça des documentaires, il fait aussi de la fiction, pas mal de films de genre, je crois. Et donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, puis après, avec lui, chercher un petit peu des aides et des choses comme ça, même si ça, bah en fait, ça c'est très compliqué, parce que un film documentaire, ou un film tout court, il y a très peu d'aides qui existent une fois que le film est déjà tourné. Des aides pour la post-production, il y en a assez peu. Donc ça a été assez compliqué. Et des films de ce genre-là, un peu militants et tout ça, c'est pas toujours évident d'avoir des aides. Même des gens beaucoup plus renommés que moi se retrouvent à devoir faire des crowdfunding, des choses comme ça pour terminer leur film quand ils sont un petit peu sur ce genre de sujet-là. Et donc c'est un petit peu comme ça, voilà, qu'on a avancé jusqu'à maintenant.
On va revenir sur le crowdfunding dans quelques instants, mais alors sur le reste de l'équipe, donc justement sur la page du crowdfunding, on peut voir que d'autres personnes travaillent sur le film, un monteur son, mixeur, une étalonneuse, un compositeur. Comment, à quel moment ils ont rejoint ce projet-là et qu'est-ce qu'ils y amènent?
Alors du coup, ils ont rejoint assez tard, puisque comme je suis monteur, j'ai pu avancer le montage tout seul. J'avais pas vraiment, enfin, j'étais pas obligé de trouver d'autres gens pour faire cette étape-là, et ça aurait été assez compliqué sans trop de sous de demander à quelqu'un, voilà, de venir travaillé sur le montage assez longtemps, mais une fois le montage terminé, c'est là que on a besoin, si on veut faire un film professionnel, de compétences de gens qui sont un petit peu plus, voilà, un petit peu plus experts de chacun dans leur domaine. Alors donc le compositeur, lui, va composer, est en train de composer quelques musiques pour accompagner le film. À certains moments, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est un peu, ça marche pareil quand, même qu'en fiction, hein, c'est vrai, une musique de film. Voilà, qui travaille à partir du montage, on va monter sa musique, on monte des maquettes, il refait une nouvelle version, c'est un petit peu comme ça qu'on avance. Le monteur son, ça c'est très important pour un film comme ça, montage son puis mixage, il y a pas mal de travail, d'une part un peu de nettoyage, de prise de son qui est pas toujours top, de remettre un peu les choses en place, de rajouter un petit peu de son à certains endroits, de vraiment créer une atmosphère, créer une créer l'identité sonore du film au fond, et faire un mixage qui puisse passer au cinéma. C'est aussi un métier qui s'improvise pas. Donc c'est quelque chose d'assez important d'avoir Médéric avec nous pour nous. Et c'est la même chose pour l'image, au fond, l'étalonnage. Moi j'étais bricolé d'étalonnage, mais je suis pas étalonneur. Mariana qui vient nous aider, ça va être un peu pareil, ça, on va faire ça avec elle normalement cet été, là on a un petit peu commencé à voir. Donc faire étalonner les images, rendre tout ça un petit peu plus uniforme, et puis aussi donner une identité visuelle à l'image, plus un petit peu tout ce qui est la technique de voilà, fabriquer le DCP, le fichier pour le cinéma, des choses comme ça. Donc en fait, on arrive vite à, si on veut faire un film qui ressemble vraiment à un film, on a besoin de gens qui sont compétents, chacun dans leur domaine.
Et donc là, sur cette campagne de financement, donc il s'agit de terminer la post-production. Quels sont les besoins et qu'est-ce qui reste à faire pour ce film?
Bah, c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer là avec cette équipe-là. On a besoin de matériel et d'énergie humaine pour l'étalonnage, pour ce montage son, pour pouvoir faire un mixage par exemple, il faut quand même un auditorium. On peut pas le faire même s'il est petit bricolé, on n'ira pas post-produire notre film au même endroit que Luc Besson sans doute, mais on a quand même besoin d'un minimum pour pouvoir se rendre compte, faire un mixage sale, un petit peu pareil sur l'étalonnage, dit qu'on a quelques droits aussi à payer sur des archives. Ina, on a utilisé quelques archives radiophoniques dans le film pour recontextualiser un petit peu certains événements au fur et à mesure du film. Ça pareil, c'est des choses qu'il faut payer. C'est plein de petites choses comme ça qui en fait ajouté, même en voulant bricoler le film, il y a toujours un certain coût. Et que beaucoup de gens nous ont déjà aidé à appuyer sur crowdfunding, et voilà, ça continue jusqu'à vendredi d'ailleurs.
On redonnera les informations sur la page de l'émission. Et là, si tout se passe bien, si le crowdfunding est validé, il reste encore longtemps, à ton avis, jusqu'à une potentielle sortie du film?
Là, on tient le bon bout quand même, parce que une fois le montage terminé, la post-production là se profile quand même pour cet été. On a déjà commencé un petit peu, on a fait un petit peu de montage son déjà. L'étalonnage risque de se faire peut-être en juillet, peut-être encore un petit peu en août. Moi, j'aimerais que le film, si ça se passe bien, soit terminé pour septembre, octobre, pour pouvoir commencer à faire un peu à ce moment-là des avant-premières, juste comme ça. Donc j'espère qu'on pourra justement voilà donc monter des avant-premières un petit peu partout où on pourra. On va essayer d'envoyer le film dans des festivals. Si on est sélectionné dans pas mal de festivals, ça serait bien. Voilà, on a envoyé pas mal de choses. Et puis après, voilà, nous, on n'a pas encore de distributeur. Mais on commence un peu doucement, un petit peu à chercher. Ça va aussi se faire sur la base de peut-être des avant-premières. Voilà, donc je sais pas encore très précisément, mais le film, j'ai bon espoir qu'il soit terminé à l'automne.
J'espère que tout ira en ce sens, et puis qui sait, peut-être qu'on se croisera à premier plan l'année prochaine. On remettra donc les informations pour le crowdfunding sur la page du podcast. Merci beaucoup Valentin d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Eh ben, merci beaucoup Thibaut.
Et quant à nous, on se retrouve juste après un morceau d'Annie Rani, I'll Never Find Your Soul.
I'll never find your soul. I'll never find your glory, though. I'll never find your soul. Deep inside my hopes, I see your soul, I hear your voice. I never find a soul, did I? I never find a soul.
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
De retour dans le Pédalo sur Radio Campus Angers et sans plus attendre, c'est l'heure de la chronique d'Iris.
Salut, salut tout le monde. Oui, alors que le temps ces dernières semaines nous a tous mis en mode stand-by, je dois vous rappeler que dimanche prochain c'est la fête de la musique, il va falloir s'organiser et vite. Je sais, ça semble peut-être un peu compliqué, hein, vu que nous ne sommes pas toujours tout à fait libérés. Rien n'est impossible. Vous avez vraiment envie de faire tomber dans les cahiers des oubliettes cette date? Eh ben moi non, en tout cas. Du coup, bon, vu que cette année l'événement est annulé dans son format habituel et qu'il va falloir se réinventer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire finalement dimanche prochain? Bon, sachez que les alternatives dans les quatre coins de la France sont au rendez-vous, certes. N'espérez pas retrouver la folie des rues remplie de gens avec un verre à la main, entre les sons les plus variés, un dansant, chamboulant comme les années précédentes, hein. Mais trouvez la solution que vous convient le mieux. Tout de suite, quelques petites suggestions. Tout d'abord, bien évidemment, faire appel à tous vos amis musiciens, DJ ou encore les amis qui ont des bons systèmes de son, hein. Je suis sûre que ce n'est pas très compliqué à trouver. S'il fait beau, vous pouvez vous rassembler à la maison ou chez des potes, dans le jardin ou dans le salon. assure vous d'avoir de la place pour danser. Aller dans un parc ou louer un petit bateau peut être aussi une belle solution. Ça vous donnera au moins la sensation de sortir vraiment quoi, et de voir d'autres gens. Même si à distance, les échanges ne sont pas encore interdits. Et en plus, dans le coin, aux alentours d'Angers, les rivières ne manquent pas. Pour ceux qui veulent rester chez soi, une bonne solution est très à la mode. Organisez-vous avec vos voisins et mettez-vous au balcon ou à la fenêtre. Tireuse à la main, quelques disques et ça y est, tout est prêt. Pour les plus underground, une petite fête dans une cave. Comme ça, au moins, vous garantissez de ne pas payer une amende. Si vous êtes en mode off, bien assis sur votre canapé, écoutez votre radio préférée ou tout simplement mettez-vous sur une chaîne qui passe un concert télévisé. C'est aussi une solution. Si le fait que ce soit un dimanche vous pose un souci, bref, vous commencez plutôt l'apéro, ou sachez que France 2 en direct le 19 juin, donc vendredi, prépare un événement à Corotel Arena, le Prime baptisé Tous Ensemble pour la Musique, qui aura lieu, bien évidemment, sans public, mais accompagné d'une quarantaine d'artistes. Le lendemain, France 5 prendra donc le relais avec une soirée dédiée à la musique. Le jour J, par exemple à l'initiative de Louise Bertignac, il va organiser un marathon rock en direct sur Facebook dès 16h. Bon, il y aura quand même des petits concerts qui sont maintenus dans les zones vertes, tout en respectant les consignes sanitaires. Grosso modo, pas d'excuses pour laisser tomber cette journée. Vous m'écoutez ? Caché, bien accompagné, isolé, connecté haut à la télé, fêtons cette belle fête d'été. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle fin d'émission.
Voilà, merci à Iris pour sa chronique. Pour ce qui est de la fête de la musique à Angers, il y aura des choses d'organiser également, mises en place par la mairie, différentes structures associatives. On vous en tiendra informé dans le courant de la semaine, dès qu'on aura des nouvelles un peu plus précises. Et enfin, je vous rappelle que si vous voulez soutenir le film Le Printemps Debout de Valentin Berthomeu, que vous avez pu entendre, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur la page de cette émission dès qu'elle sera en ligne. Il reste quelques jours pour participer au financement participatif de ce beau projet. Voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.